Chers amis de PFC, bonsoir. Bienvenue dans cette réunion du dimanche 23 novembre 2014 à Romainville. Nous sommes quelques-uns ici, membres du groupe Préparez-vous au changement. Et nous allons, dans un premier temps, juste faire un petit tour de prénom.
Bonsoir, Véronique.
Ici Sylvia, bonsoir.
Bonsoir, je suis Lunilla.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue tous les membres de PFC qui sont à l'écoute, et notamment Lina. Un petit coucou.
Bonsoir, c'est Claire. Je salue Cathy. Stella. Et tous les membres de France et de Navarre qui vont nous écouter. Bien le bonjour chez vous.
Bonsoir, je suis Avi, ravi d'être là, de vous accueillir dans mon lieu ici. Je salue Sandra, je salue affectueusement Lina qui va bientôt changer de lieu. Je te souhaite, Lina, la meilleure transition possible. Voilà, il y a un petit moment à présent pour donner des informations, écouter des nouvelles ou donner des nouvelles sur qu'est-ce que c'est que préparer vos changements, qu'est-ce que c'est que l'événement, des choses, qui sont le fondement de pourquoi nous nous réunissons ici. Pour ma part, je le considère comme avancer en conscience, en nous réunissant, en méditant, en mettant des intentions fortes de libération de toutes les sortes d'esclavages différents qui peuvent se passer sur Terre. Donc nous nous réunissons depuis environ un an ici. Je constate que les méditations sont de plus en plus profondes. Et si ça ne servait qu'à cela, ça serait déjà beaucoup pour moi, puisque plus nous progressons en conscience, et plus l'image que nous avons de notre monde environnant change, et puis nous pouvons aussi influer davantage sur la conscience planétaire. Alors, comme il y a des personnes nouvelles, je vais peut-être brosser un rapide résumé de ce que c'est que préparez-vous au changement, et pourquoi nous nous réunissons, et puis à quoi nous pouvons nous attendre dans les semaines, mois ou années à venir avec ce mouvement-là. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent compléter ce que j'ai dit, c'est tout à fait possible. Voilà, alors il y a à peu près un an, il y a une personne qui se fait appeler Cobra, qui a inauguré et a demandé à ce qu'un site Préparez-vous au changement soit réalisé. Cobra fait partie de ce qu'on appelle les forces de la résistance, qui sont un ensemble de personnes à la fois terrestres, intraterrestres, extraterrestres, qui essayent d'œuvrer pour la libération de tous les esclavages, toutes les manipulations possibles sur Terre. Il semblerait que nous soyons la dernière planète de toute la galaxie qui ne soit pas complètement libre d'agir à notre guise, qui nous sommes dans une sorte de prison sur Terre qu'on appelle parfois la quarantaine, même au niveau des âmes et du processus de la réincarnation. Il y a une sorte d'emprisonnement des âmes. Alors, Alors, que font ces forces de la résistance? Elles essayent d'infiltrer les instances gouvernementales, les forces de police et d'armée, pour créer des forces positives dans ces instances-là. Et puis, le rôle de nos méditations du dimanche vise à ce que le niveau de conscience grandisse sur Terre pour que cette libération puisse avoir lieu. Évidemment, si nous avons un niveau de conscience réduit, nous en sommes à un état de victime. Il nous arrive des choses et nous n'avons pas de pouvoir. Mais avec la conscience vient la responsabilité et le pouvoir. Voilà, donc lorsque la conscience planétaire sera assez grande, et nous œuvrons pour ça, avec tous les groupes qui se créent sur Terre, sur PFC, mais aussi d'autres mouvements de conscience, alors il est probable, très probable, qu'un événement se produise sous la forme d'un flash de lumière, un flash d'énergie en provenance du Soleil galactique. Et à la suite de ça, toute une série d'événements en cascade pourraient se produire: arrestation des forces manipulatrices, fermeture des banques, réinitialisation du système bancaire, et puis libération de technologies qui sont pour l'instant supprimées. Je dirais la plupart des manipulations sur Terre seraient appelées à cesser. Et nous vivrions une vie sans contrainte, avec beaucoup moins d'heures de travail, avec pratiquement plus d'impôts, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de littérature, en particulier sur le site Être Plus, dans les petites annonces, il y a une rubrique PFC, Prepare for Change, les trois lettres, où il y a beaucoup de documents qui ont été traduits en français. Voilà. Donc nous œuvrons pour la libération et en même temps nous œuvrons pour notre propre conscience. Et même si la libération se fait tardivement ou ne se fait pas, je ne sais pas. En tout cas, nous pouvons dire que personnellement, nous aurons aussi évolué nous-mêmes dans une conscience plus grande, ce qui est déjà important et beaucoup. Cela dit, Cobra, qui est le porte-parole de ces forces de résistance, donne des informations, parfois elles sont codées, comme celles que Véronique a lues tout à l'heure hors micro, et parfois elles sont tout à fait en clair, comme la présence d'une fenêtre d'opportunité pour l'événement, hein. L'événement, c'est ce fameux basculement de conscience sur Terre, assorti de grands changements, auxquels nous nous préparons, bien sûr. Alors, la fenêtre d'opportunité, ça se résume à prévoir que entre le 15 décembre qui vient et en mars, je ne sais pas, c'est à peu près le 20 mars, je crois, 17, et le 17 mars, peu importe, c'est pas à quelques jours près, de toute manière, l'événement a plus de chances de se produire, pour plusieurs raisons. On les connaît pas toutes les raisons, mais la principale raison, c'est que les forces de la résistance sont en train de s'occuper du dernier bastion des forces manipulatrices qui s'appelle Chimera, le groupe Chimère. Bon, c'est un groupe qui n'est pas terrestre, mais qui vise à emprisonner au niveau psychologique, hein, emprisonner les personnes sur Terre dans des schémas mentaux limitants. Donc ce groupe-là, la libération de la Terre ne dépend actuellement que de la victoire sur ce groupe-là, Chimère, qui semble posséder des technologies très puissante et aussi dangereuse. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais à partir du 15 décembre, nous entrons dans une fenêtre où il y a plus de probabilités que cet événement se produise. Voilà, et puis il y a une sorte d'accélération en ce moment dans le mouvement Prepare for Change, parce qu'il y a un site international, prepareforchange.net, si je ne me trompe pas. Et sur ce site arrivent des informations un petit peu plus précises et techniques sur comment assurer, par exemple, la sécurité et le bien-être de la population sur Terre au moment de l'événement. C'est sorti très récemment, peut-être il y a une ou deux semaines. Ce document a une certaine importance parce qu'il est assez concret. Et nous pouvons, à juste titre, nous demander pourquoi il arrive maintenant et est-ce que nous devons nous préparer davantage maintenant. Voilà, tout ça c'est très possible. Donc ce document, grâce à l'aide de plusieurs personnes bénévoles de notre groupe français, a été traduit et sa traduction est dès à présent sur le site Être Plus dans les petites annonces. Et elle va être encore révisée, elle est presque finalisée. Je mettrai la version la plus à jour sur ce site. Donc il faut savoir que c'est un représentant aux USA de Prepare for Change, Nova Biscotti, qui l'a écrit. Donc il y a beaucoup quand même de références au système américain. Tout ça, ça va être un peu, entre guillemets, francisé, pour que ce soit plus compréhensible pour nous, les Français. Et puis, ce document appelle une certaine action de notre part. Je vous inviterai à le lire. Il y a environ une dizaine de pages. Il est fortement en relation aussi avec un document qui existe depuis déjà quelques mois, qui s'appelle « Lettre aux dirigeants locaux ». Ces deux documents-là, c'est intéressant de les lire pour avoir une vue d'ensemble plus approfondie de PFC. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'actualité récente. Et puis, dans le monde, on peut, réunion après réunion, nous relatons que des anciens membres de gouvernement ou de banques sont arrêtés. De plus en plus souvent, les manipulations bancaires sont mises au jour, comme la manipulation du taux interbancaire, le Libor, qui a donné suite à des amendes records de plusieurs milliards de dollars sur certaines banques. Je dirais, plus ça va, plus la lumière se fait sur des agissements à la limite du mafieux sur Terre entre les gouvernements et les dirigeants d'organismes de pouvoir. Donc c'est une nouvelle pour la conscience, c'est une nouvelle intéressante que la vérité émerge, que la lumière puisse percer davantage. Lorsqu'il y aura plus de forces de lumière sur Terre que de forces d'ombre, le basculement se fera automatiquement, de lui-même. Et c'est la raison aussi de nos réunions, c'est la raison du site PSC. Et ce qui peut nuire à ça, c'est faire en sorte que l'événement, ma conscience se focalise dessus, que je sois dans la frustration, l'impatience, l'attente, voilà, tout ça n'est pas de nature à ce que nous soyons créatifs, mais plutôt victimes ou dépendants du bon vouloir de certains. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons donner, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons créer à notre échelle pour accélérer ce changement de vibration sur la planète. Voilà, et puis juste quelques mots sur les groupes et la manière de fonctionner que nous avons ici. Comme les Anonymous, auxquels notre groupe ressemble un petit peu, Par certains points, il n'y a pas de chef ici. Hein. S'il y avait un chef, ça serait le signe que quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. Or, notre cadre, c'est l'égalité de rôle, sachant que chacun a quelque chose de différent à donner au groupe, chacun a des compétences particulières et chacun est appelé aussi à contribuer et à donner au groupe d'une manière qui lui est propre. Hein, donc, si vous ne donnez rien au groupe, demandez-vous quelles sont mes compétences et comment je peux faire progresser ce groupe en y amenant mes compétences. Parce que si vous êtes dans cette réunion, si vous écoutez aussi à distance cette réunion, vous avez forcément quelque chose à amener que d'autres n'ont pas. Hein, peut-être la question, simplement, c'est de qu'est-ce que j'ai à donner ? Dès lors, vous commencez à être créatif et non plus déçu, frustré ou dans l'attente ou même dans l'espoir de... Bien sûr, nous nous attendons à l'événement, mais nous ne l'attendons pas, hein, nous nous y attendons. Et c'est très différent, hein, là, je ne me focalise pas dessus, je ne place pas tous mes espoirs dessus, sinon je suis dans l'émotionnel et je suis dans un état qui ressemble à celui de la victime, qui est entièrement dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, et bien sûr la conscience ne gagne pas à être ni dans l'émotionnel ni dans la victime, puisque ça fait baisser le niveau des vibrations, hein. Donc, intérieurement et sans complaisance, demandons-nous personnellement, individuellement, si nous sommes créatifs dans ce mouvement ou si nous sommes dans l'attente que quelque chose se passe pour nous délivrer. Assurément, ce n'est pas la position constructive, hein, qui pourra accélérer l'événement. Voilà, la deuxième règle dans ce groupe, c'est le non-jugement. On ne se juge pas les uns les autres. Chacun a le droit de penser comme il veut. Et chacun a le droit d'avoir des idées différentes, même si elles ne sont pas forcément partagées par moi ou par d'autres qui écoutent. Et puis on essaye d'être discret dans nos interventions, de ne pas prendre une place exagérée dans ce groupe, ce qui nuirait à l'égalité des rôles. Et puis, il y a encore autre chose, oui. On essaye de se nommer quand on parle, puisque les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément qui parle. Voilà, j'ai dit quelques généralités. S'il y a des questions parmi vous, si vous voulez rappeler des choses importantes, ça peut être le moment de le faire au micro.
Sylvia, Cobra.
Pas trop près de la bouche, ouais.
Est-ce que tu...
Pas trop près.
Est-ce que tu peux définir exactement Cobra et depuis quand ça s'est créé ?
Nicolas. Alors, Cobra, ça s'écrit comme Cobra en français. C'est l'acronyme, en fait, c'est la compression de Compression Breakthrough. Donc en fait c'est formé de certaines lettres de ces deux mots anglais, compression, breakthrough, qui veut dire percer par compression. Et la percer par compression, en fait, c'est l'idée qu'il y a en quelque sorte la lumière d'en haut et la lumière d'en bas qui se rejoignent à la surface de la planète pour... Compression breakthrough. Français, percé par compression. Breakthrough. Breakthrough. C'est dans compression. C'est break, c'est le A de break.
C'est quelques lettres qui sont prises dans ces deux mots.
Voilà. C'est une compression de ces deux mots, en quelque sorte.
Donc, Et qui l'a initié ?
Alors, ça a été...
Tu peux répéter les questions parce que...
Donc, Sylvia nous demande depuis quand ça existe et qui l'a initié. Donc, il y a le blog de parce qu'il y a deux choses. Il y a le site Prepare for Change avec, qui organise un peu les méditations de soutien. Mais avant, il y avait déjà le blog de Cobra qui lui existait, je ne sais pas exactement quand, peut-être il y a 2 ans à peu près.
2012.
En 2012, vous ne savez pas quel mois, non? Bon. Et Cobra donc, a créé donc son blog, portal 2012.blogspot.fr. Cobra, donc, qui est le porte-parole, parce que Cobra, c'est deux choses. C'est à la fois le phénomène, donc c'est le phénomène de libération planétaire sous forme de percée par compression, et c'est aussi le porte-parole, c'est le pseudonyme du porte-parole qui explique ce processus, qui accompagne...
C'est un être physique.
Voilà, c'est quelqu'un de physique qui existe.
C'est un être humain.
Et donc Cobra, c'est deux choses. C'est le nom de cette démarche, de ce phénomène, et c'est le porte-parole qui... c'est le nom du... Alors c'est quelqu'un qui vient... s'il vient nous demander d'où il vient, je crois qu'il vient des USA, il me semble, mais je ne le garantis. De toute façon, il a une identité qui est confidentielle. Donc il ne donne pas son identité. Alors s'il vient nous demander si c'est que lui ou plusieurs personnes, lui il dit qu'il est... En fait, il est un peu mandaté par une résistance. Une résistance qui serait donc faite à la fois de personnes en surface ainsi que de personnes dans les mondes souterrains, du monde d'Agartha, et aussi d'entités extraterrestres qui communiquent ensemble. Qui collaborent ensemble pour libérer la planète de la quarantaine. Et lui, il serait donc un interlocuteur qui relayerait les informations et donnerait des informations pour contribuer à cette libération. Et lui-même, Cobra, donc, se dit ancien pléiadien, c'est-à-dire réincarnation d'un pléiadien, et être aussi en contact avec des pléiadiens. Et il explique aussi qu'il avait commencé son premier contact avec la résistance de Agartha dans les mondes souterrains à partir, il me semble que c'était en 1981, je crois, dans les souterrains du métro de New York. Alors qu'il était plus ou moins un peu traqué par des bandes d'Illuminati, il était un peu traqué, et puis il s'était un peu réfugié par là, et puis là il avait trouvé d'autres personnes de la résistance souterraine qui ont commencé à s'organiser avec lui. Je connais pas tous les détails, mais il en parle hein, sur son blog, surtout si on regarde dans les premières pages. Voilà, je sais pas si...
Prepare for Change, c'est né suite à ça, et quand, à partir de quand?
Alors, Prepare for Change, c'est un site internet qui est né sous l'impulsion donc de Cobra il y a un an, quasiment un an, à peine plus, hein, un an et quelques jours ou quelques semaines. Pour organiser donc un soutien par la méditation et aussi pour à la fois pour organiser le soutien par la méditation et pour le soutien pour former les personnes à être au courant le jour où l'événement se produirait de ce qui se passe et de pouvoir être en mesure de communiquer à ce sujet, de rassurer les gens autour pour que la situation reste sous contrôle.
Et dans combien de pays, alors, les gens se réunissent comme ça et sont au courant?
Alors, les pays, en fait, il n'y a pas, y a rien d'officiel, parce que n'importe qui va sur le site peut décider de participer. Donc, des groupes, il y en a dans la, j'imagine, dans la plupart des pays aujourd'hui, au moins de temps en temps. C'est très difficile de savoir, en fait, parce que sur Meetup, il y a une liste, enfin on voit un peu tous les endroits où il y a des groupes, mais sauf que déjà ils sont pas du tout tous, ils sont pas tous là. Alors c'est-à-dire qu'à la fois les groupes qui sont qu'on voit sur Meetup, ils sont pas forcément actifs, ils ont peut-être été actifs une fois et puis en fait ils le sont pas, mais par contre il y a d'autres groupes qui sont pas sur Meetup et qui... Leur Meetup, c'est le site sur lequel d'habitude on s'inscrit pour trouver des points de rencontre pour constituer des groupes de méditation. Enfin, c'est une interface qui a été proposée par Prepare for Change. C'est un truc qui sert à toutes sortes de groupes pour toutes sortes de sujets, hein, dans le monde. Et donc, cette interface a été utilisée, mais en fait, c'est peut-être pas trop la peine d'en parler vu que c'est sur le point d'être fermé. Ça va passer en payant, donc on va devoir trouver une solution. D'ailleurs, j'attends que Prepare for Change me suggère de manière un peu officielle, une alternative. Parce que là, Avi, tu proposes Doodle, mais bon, ce serait bien quand même que Prepare for Change commence à se préoccuper de cette question et suggère une autre interface pour organiser la formation de groupe, parce que c'est quand même mieux quand il y a un peu une homogénéité pour qu'on sache un peu quand même qu'on ait une idée des groupes qui sont dans le coin. Enfin, si voilà, et puis c'est beaucoup plus facile en fait de s'organiser, de trouver des groupes pour méditer si on utilise la même interface que si chacun utilise la sienne, c'est certain.
Et en France, il y a combien de groupes à peu près de personnes?
Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas clair parce qu'on ne sait pas exactement. C'est-à-dire que rien n'oblige à créer un groupe sur Meetup pour participer. En France, il y a dans la région à Paris, il y a ce groupe. En gros, il y a eu d'autres endroits où il y a eu des méditations à Paris, mais en général, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, plusieurs groupes simultanément. Donc en gros, à Paris, il doit y avoir une douzaine de personnes qui participent à peu près régulièrement. Et dans la France, je ne sais pas combien de groupes il y a, hein, mais il n'y en a pas énormément. Peut-être une cinquantaine de personnes régulières dans le pays, en France. Mais on ne peut pas vraiment savoir, en fait.
Ça veut dire que ce n'est pas assez connu encore. Ce n'est pas suffisamment connu. Où est-ce que c'est plus connu? Est-ce que c'est aux USA ou ce mouvement?
Où est-ce que c'est le plus connu? En fait, si on considère que Meetup est une estimation, on va dire, même si ça ne donne pas d'informations précises, on pourrait se dire statistiquement, ça donne à peu près une information en gros sur les endroits qui sont plus où il y a plus de groupes. Ce serait donc en Europe globalement qu'il y a le plus de groupes, ainsi que les États-Unis. En gros, c'est à peu près ça, hein. Europe et les États-Unis.
Bon, merci pour les réponses.
Je t'en prie, Avi, si tu veux rajouter quelque chose. J'ai été assez bavard.
Ouais, il faut dire que le site Prepare for Change est quand même assez centré sur les États-Unis. La langue, c'est l'anglais. Il y a des possibilités de traduction qui ne sont pas très, très efficaces. Les nouvelles qui sont données aussi par le site PFC officiel tournent assez souvent autour de thèmes qui sont propres aux Américains. Donc, tout ça n'a pas vraiment d'importance, mais en vérité, il semblerait que ce soit les États-Unis dans le monde qui concentrent le plus de manipulations, que ça, si quelque chose se passe, si l'événement se déroule, vraisemblablement, il sera aussi centré sur une action aux États-Unis. Donc il y a peut-être un point, une justification au fait que ça part des États-Unis, ce site-là, et beaucoup d'informations sont centrées autour de ce qui se passe aux États-Unis ou de ce qui pourrait changer aux États-Unis. Pas uniquement, mais par exemple, on a fait beaucoup d'efforts de traduction volontaire en France, ici dans ce groupe en particulier, pour avoir des documents intelligibles en français. Et le site n'a pas été très, très, très efficace pour nous fournir des informations en français. Je dirais ça a un peu évolué, mais ce n'est pas hyper important non plus, puisque ce qui compte, c'est la faculté d'organiser des groupes, de faire les méditations. Et la plupart des vidéos qui sont des vidéos de Cobra pour motiver les personnes sont traduites en une douzaine de langues et sont livrées sur son site. Donc voilà, c'est quand même centré sur les USA. Hein. Ça, je crois que c'est assez indubitable. Les autres suivent à peu près comme ils peuvent. Hein. Ça, c'est ce que je constate aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres questions?
Est-ce que M. Obama, le gouvernement américain, est au courant de ce... Et on l'appelle comment, mouvement ou non? C'est une organisation, comment on appelle Cobra? Non, c'est pas ça, mais c'est... La nature de c'est quoi? C'est pas un mouvement, c'est une organisation.
C'est les forces de la résistance, les forces. Donc il y a ces forces de la résistance sont, comme j'ai dit tout à l'heure, sont infiltrées en tant que forces positives dans la plupart des corps d'armée et de police de chaque pays. Hein, et elles se tiennent prêtes à intervenir au moment où il y aura une bascule. Prepare for Change, c'est une sorte de mouvement. On peut dire que c'est un mouvement, et puis c'est un mouvement d'énergie aussi. Hein. Donc ça porte pas ce nom officiellement, mais c'est comme ça que moi je l'appelle. C'est un mouvement vers une meilleure société, vers une libération. Le but de Cobra, le but de PFC, ça tient en deux mots, la libération de la planète. C'est tout, hein, c'est ça. Après, comment ça se fait, comment ça s'organise? C'est tout le sujet de nos réunions, c'est aussi les détails qu'on donne. C'est comment on peut voir au fur et à mesure, avec le temps qui passe, comment on peut voir que ça a un effet sur notre vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique en moi, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les arrestations... les banquiers, les choses qui se dévoilent, tout ça, on peut faire des liens hein, pour connoter tous les événements ensemble avec ce mouvement-là. Alors la plupart des dirigeants mondiaux, même si il n'y a pas de preuves directes, mais sont comme des marionnettes hein, aux mains de forces de manipulation qui ont des arguments bien puissants pour les faire obéir, hein, je dirais. Obama l'a dit à plusieurs reprises, je ne fais pas ce que je veux. Hein. C'était même pas sous-entendu, c'était très clair. Je ne fais pas ce que je veux. Et on peut dire que la plupart des chefs de gouvernement à l'échelle mondiale sont... obligé de dire oui. Et puis il y a le pouvoir de la finance aussi, le pouvoir de l'économie qui bien souvent passe avant le bien-être des citoyens parce que Il est question de gagner de l'argent et les politiques se rallient bien souvent au pouvoir économique plutôt qu'au bien-être du citoyen. Ça fait partie des effets qu'on constate. Et puis si on parle de la dette, chaque pays est endetté. Il n'y a pas, à part aujourd'hui, l'Iran, la Corée du Nord, la Libye, il n'y a que ces trois pays qui n'ont pas de banque centrale et qui ne sont pas dans le système de la dette. La dette est conçue de manière à ce qu'on soit dans l'impossibilité de la rembourser et qu'on soit constamment en train de fournir des efforts pour essayer de la diminuer, mais mathématiquement, c'est prouvé que c'est inremboursable et que c'est un système d'esclavage. C'est un système infini. Aujourd'hui, quand je paye 100 euros d'impôts, il y a peut-être 90 euros qui sont consacrés au remboursement de la dette. Et mathématiquement, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, il y a une sorte de mensonge d'État ou des économistes qui fait que, en fait, ça vise à nous transformer en esclaves qui travaillons pour rembourser une dette qui est immense et qui est, en fait, pas remboursable. Donc, une des raisons du mouvement de la résistance, c'est d'abolir ce système financier qui marche sur la tête et qui ne résiste pas à une logique même élémentaire. Hein, au niveau élémentaire, nous voyons que c'est impossible de rembourser à ce point ces sommes.
Oui, c'est intéressant de parler de ça parce que juste avant que je franchisse la porte, le portail d'ici, Claire, c'est Claire, j'écoutais une émission sur France Inter qui recevait entre autres le sénateur qui a fait sécession avec les partis socialistes, là, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le seul que j'ai entendu dire, donc il a dit ce que tu viens de dire à vie, que la dette était irremboursable, qu'on ne la rembourserait jamais. Il doit savoir un peu de quoi il parle, parce que c'est un monsieur qui a quand même travaillé avec un économiste qui s'appelle Monsieur Généreux. Bon, oui, il s'appelle comme ça, c'est drôle.
Non, on ne croyait pas qu'il s'appelait Innocent et Clément aussi.
Mais je ne suis pas en train de faire de l'humour, là. Le type avec lequel Mélenchon a écrit un bouquin qui s'appelle « Oui, nous pouvons », quelque chose comme ça, il s'appelle Jacques Généreux. C'est pas une plaisanterie, c'est son nom, c'est son vrai nom. Il y a quelqu'un qui a réagi en rigolant et en se moquant, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, il disait ça, et lui, il proposait une alternative, donc d'arrêter la permanente pression sur les citoyens qui consiste à demander toujours plus d'impôts et à faire que les gens s'appauvrissent. Enfin, l'immense majorité des gens, parce qu'il y a toujours une caste qui, elle, ne cesse de s'enrichir, on le sait. Et bon, voilà, il présentait quelques solutions, dit-il, raisonnables pour éviter soit la guerre, ce qui s'est passé en 29, quoi, le cataclysme complet économique. Donc ça commence à émerger, parce que c'est quand même passé sur France Inter, un dimanche à 6h30 du soir. Et puis il y a une autre chose que je souhaiterais dire, qui est quand même assez nouvelle. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux médecines alternatives. Hein. Et je suis assez documentée sur les effets très néfastes des vaccinations. Je ne suis moi-même pas vaccinée mes enfants. Et j'ai fait ce choix, qui est un choix vraiment qui était risqué, parce qu'en France, on peut aller en tôle si on ne fait pas vacciner ses enfants et qu'on est pincé, ce qui est un scandale, puisque le vaccin est un médicament. Et là, il y a eu un professeur qui s'appelle le professeur Joyeux, encore un nom... Encore un nom qui est drôle, parce que joyeux, généreux, qui est lui-même un cancérologue, je crois, et qui est un chercheur, qui est un monsieur âgé maintenant, donc à mon avis, il a beaucoup plus de liberté que quand il était plus jeune. Et je pense qu'il doit être à la retraite, mais en tout cas, il continue à faire des tas de choses. Et ce monsieur a lancé une pétition pour avertir les femmes de surtout pas faire vacciner leurs jeunes filles ou leurs filles avec la vaccination contre le papillomavirus, parce que le vaccin est extrêmement dangereux pour toutes les raisons qu'il explique. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut pour la médecine, les médecines naturelles. Moi, je reçois personnellement la lettre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Dupuis, que 500 000 personnes en Europe reçoivent gratuitement. Et donc, pour revenir à cette histoire dans laquelle on parle de ça, entre autres, et pour revenir à cette histoire d'infos sur la vaccination, ça doit être la première fois historiquement que une campagne, il a fait faire une pétition contre cette vaccination pour toutes les raisons qu'il invoque. Je ne vais pas les dire parce que je ne saurais pas les formuler. C'est complexe. En tout cas, c'est un vaccin dangereux. Elle a remporté 350 000 signatures en quelques temps. Moi, je l'ai signée. Je vous invite à la signer si vous avez l'occasion. À la clé de ça... Hein, ça doit être sur le site de l'Institut pour les médecines naturelles ou quelque chose comme ça, mais je pourrais t'envoyer le lien. Et donc, c'est un très très grand succès. Ça permet de faire trembler les grands pontes de l'ordre des médecins, qui sont des gens qui pensent qu'ils savent tout et qui veulent, qui sont des espèces de, comment dire, moi je dirais des censeurs et en même temps une façon très fasciste d'agir, puisque ce sont des gens, je parle des responsables de l'ordre des médecins, ce sont des gens qui sont capables de discréditer certains médecins, comme l'ont été le docteur Solomides en son temps, le docteur Beljanski qui en est mort, de brûler des laboratoires. Alors c'est pas eux qui les brûlent directement, évidemment, ils s'arrangent pour que ce soit pas eux, bien évidemment, sinon ils iraient en prison. Les laboratoires brûlent d'un seul coup, qui sont capables d'interdire certaines médecines sous prétexte en fait qu'elles ne correspondent pas à leur vision de la santé, mais eux ils disent pas ça comme ça, ils traitent les autres de charlatans. Et donc, pour revenir à la vaccination, parce que là j'ai fait encore un détour, le docteur Joyeux, je pense qu'il est en train, si mon souvenir est bon, de solliciter une entrevue auprès du ministère de la Santé, et il a écrit au président de la République, au ministère de la Santé et à je ne sais plus quelle autre personne pour expliquer la teneur de sa démarche. Donc pour moi, c'est quand même un signe que quelque chose sont en train d'évoluer sur le plan politique. Parce qu'il y a quelque temps, ça aurait été absolument impossible, étant donné que quand ils parlent des vaccinations, les officiels, c'est toujours la langue de bois, c'est oui, s'il n'y avait pas eu de la vaccination, vos parents seraient ou vos grands-parents seraient morts d'infection, grâce à la vaccination, la planète, une partie de la planète a une santé meilleure, enfin que des choses qui sont très très critiquables, même s'il y a des choses qui sont c'est en partie vrai et c'est grandement faux, parce que les statistiques sur la vaccination sont extrêmement truquées, celles de l'OMS, ça c'est d'après mes sources à moi, sources comme L'intoxication vaccinale de Delarue, qui est un vieux bouquin qui date d'il y a une quarantaine d'années, le Pasteur, le plus grand mensonge du siècle, de je ne sais plus quel docteur, Bromberger, je crois, je ne sais plus qui l'a écrit, je l'ai chez moi. Donc il y a énormément de manipulations aussi, malheureusement, dans le domaine, et depuis très longtemps dans le domaine pharmacologique, dans le domaine médical, dans le domaine des recherches, puisque malheureusement les laboratoires pharmaceutiques sont là derrière pour faire des pressions absolument énormes sur nos hommes politiques pour aller dans tel ou tel sens. Il n'y a qu'à voir le scandale des 90 millions de vaccins avec notre chère Roselyne il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc je suis contente parce que même si ce n'est pas encore des millions de personnes qui se dressent pour demander la vérité sur les vaccins, il se passe quand même des choses. Les gens en ont marre avec les scléroses en plaques, tout ce qui s'est passé, quoi, avec tous ces vaccins toxiques. Et puis l'autisme aussi, parce que moi j'ai lu plusieurs documents. Les vaccins qu'on injecte aux enfants, certains vaccins, j'ai plus en mémoire lesquels, à cause notamment des adjuvants qu'il y a dedans, eh bien, des chercheurs américains, c'est pas des mecs n'importe qui, ce sont des chercheurs américains dans le domaine de la santé, épidémiologistes, je sais plus lesquels, enfin bref, j'ai lu plusieurs choses, ont découvert qu'il y avait une inflation incroyable de cas d'autisme, sans doute en France aussi, mais là c'était aux États-Unis, donc c'est extrêmement grave. Et moi j'ai vu aussi un petit reportage d'une famille dont le petit avait été vacciné vers l'âge de, je dirais, 18 mois. Si mon souvenir est bon, c'est autour de 18 mois, qui était un enfant tout à fait normal et qui, après les injections, dans les deux mois qu'on suivit, a développé un handicap mental absolument incroyable et est devenu le corps est devenu très handicapé aussi. Son cerveau, son corps et les parents sont extrêmement, bien sûr, dans une très grande souffrance et puis ils sont très en colère. Et apparemment, il y a des milliers d'enfants concernés par des séquelles à cause des vaccinations. Il faut vraiment savoir ça. Donc faites attention, parents. Ne faites pas vacciner vos bébés indûment. Mais oui, j'assume.
C'est de vous, Nicolas. Oui, là, c'est vrai que je confirme. Oui, je suis assez d'accord globalement avec ce que Claire a dit. J'ai entendu, ça fait longtemps que j'entends à peu près ce genre de choses. Effectivement, pour ma part, je suis très... très sceptique par rapport aux bienfaits des vaccins. Et par contre, effectivement, il suscite beaucoup de problèmes. Alors, ce qui est particulièrement mis en cause, a priori, c'est les adjuvants, et en particulier les adjuvants à l'aluminium. Et en plus, là où c'est assez saugrenu, c'est que même quand on a le choix entre plusieurs vaccins, avec une version, avec un adjuvant avec aluminium ou sans aluminium, la version qui ne contient pas d'aluminium, finalement, elle disparaît. Et à la fin, il ne reste plus que la version avec l'aluminium. Donc, on peut presque se demander si ce n'est pas fait exprès. Bon. Y a un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui est de Claire Séverac, qui s'appelle « Conspiration mondiale contre la santé ». Donc peut-être qu'elle raconte des choses de ce côté-là, je ne sais pas trop. Voilà, sinon, un peu un sujet périphérique par rapport à ce sujet-là, j'ai vu un documentaire qui dure qu'une demi-heure et qui était passé dans Envoyé spécial. Alors d'habitude, il raconte, enfin, je ne regarde pas beaucoup la télé, hein, mais normalement, il ne raconte pas grand-chose d'intéressant, donc je ne regarde pas trop, mais... Là, sur YouTube, j'ai trouvé une rediffusion du Monde selon Bill Gates. Et je trouvais que c'est assez intéressant parce qu'ils expliquaient, en fait, que... Donc, ils parlaient de la fondation Bill et Melinda Gates, où donc il y a 95% de la fortune de Gates qui est dedans, consacrée, donc, soi-disant, au développement, au bien-être, tout ça. Donc ça c'est l'aspect philanthropique, hein, dont on parle tant à propos de Bill Gates. Et alors ce qu'ils ont révélé dans Envoyé spécial, c'est à vérifier, hein, mais je pense que ça doit être juste, hein, parce que si eux critiquent, a priori c'est plutôt... ce qu'ils disent, c'est que... en fait, les fonds qui sont utilisés par cette fondation, il n'y a que les intérêts qui sont utilisés. Jamais la somme qui est investie dans la fondation. Et la somme qui est investie, donc c'est 95% de la fortune de Gates. Cette somme, en fait, elle est placée, parce que ces intérêts, donc, ils sont investis dans des projets pour l'environnement, humanitaire, et tralala. C'est sur les intérêts, donc c'est les intérêts d'une somme qui est placée, et elle est placée en fait pour des projets qui sont en fait diamétralement opposés aux préoccupations philanthropiques. C'est-à-dire, c'est pour des projets de forage de pétrole, d'armement, de recherche en OGM, et ce genre de choses.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Bon, j'ai pas vérifié, mais bon, envoyé spécial quand même. Je sais qu'il y a raconté beaucoup de conneries, mais là, bon, ils vont pas poignarder Bill Gates. Enfin bon. Donc, alors j'en ai parlé à mon père. Alors je suis assez étonnant, parce que je trouve ça étonnant. Enfin, bon, il y a un petit. J'ai toujours du mal en fait à comprendre la psychologie de mon père. Donc, j'en parle à mon père et il trouve ça intelligent. Ah oui, je suis d'accord, c'est intelligent. Mais lui, il trouve ça même bien. Enfin, il trouve que oui, c'est normal. C'est une bonne façon de lutter contre les lobbies. Contre les lobbies du pétrole, des armements et tout ça, en plaçant de l'argent dedans et en utilisant les intérêts pour des projets opposés. Moi, il faut bon, je lui dis que je vais réfléchir à ce qu'il dit. Je vois pas très bien l'intérêt. Bon, bon voilà. Non, il est socialiste, mais comme il se fait manipuler, il croit qu'il est socialiste, mais en fait, il est d'extrême droite, la plupart des personnes, aujourd'hui. Bon.
Investissez dans le pétrole, c'est l'avenir.
Voilà, donc j'invite les personnes éventuellement à voir le documentaire qui s'appelle « Le monde selon Bill Gates ». C'est pas très long, c'est une demi-heure, c'est suffisant pour parler de... pour approfondir un minimum sans que ce soit trop long en même temps.
Moi, ce sera pas très explicite parce que j'ai posté quelque chose sur mon Facebook, sur mon mur Facebook, mais je l'ai pas vraiment lu. J'ai lu que le titre. Il faut absolument que je le lise. Des fois, je fais ça pour les lire après. Et apparemment, ce que je voulais juste évoquer, c'était le sujet de la pédophilie et la lutte contre les pédophiles de la famille de Windsor, donc la reine d'Angleterre et tous les gens, une partie des gens de sa famille, j'imagine pas tous, et de l'ancien pape, monsieur, comment il s'appelait
Ratzinger,
qui n'a pas pris des RTT, hein, il a été en fait attaqué en justice, ce monsieur, parce qu'apparemment, je ne sais pas si lui participait à des actes pédophiles, mais en tout cas, il protégeait des prêtres ou des évêques ou des cardinaux qui avaient maille à partir avec le satanisme et la pédophilie. Et apparemment, ils sont en train d'être jugés. Donc, normalement, logiquement, ça devrait un jour être révélé. Je le souhaite parce que c'est tellement gravissime. Parce que la famille de Windsor, par exemple, a, depuis les années 50, fait disparaître beaucoup d'enfants des pensionnats au Canada, d'enfants indiens. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont morts et beaucoup d'enfants qui ont été sexuellement abusés, violés, etc. Et je l'avais lu il y a longtemps, là. Donc, il y a des personnes impliquées de cette famille-là. Famille de Windsor, dont la reine d'Angleterre, enfin sa famille, voilà. Donc, il se passe des choses, mais la télé ne nous en parle pas beaucoup, c'est vrai, c'est assez choquant. Mais je suis très contente s'ils sont enfin punis, parce que c'est tellement gravissime. Voilà, bon, ce n'est pas des choses très agréables, mais... alors, comme chose agréable, je pense au concert que j'ai écouté hier soir, qui était magnifique. Un concert de piano d'un jeune Arménien de 27 ans, un vrai génie. Voilà, c'est une chose agréable. Tigrane. Je vous conseille d'écouter Tigrane.
Autre chose à dire ?
Christine, je dirais simplement que la dette dont on parle est une dette totalement fictive.
Oui.
Elle est juste fabriquée pour nous faire peur, c'est tout.
Je vais ajouter aussi que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez les chemtrails, mais que Bill Gates aussi soutient et met de l'argent dans les chemtrails. C'est pour lutter contre la réchauffement, enfin la géo-ingénierie, et nous balance des poisons du ciel et barium, aluminium, et pourquoi il y a tant d'Alzheimer, et puis voilà.
je vais reprofiter donc de l'allusion à Bill Gates pour rappeler quelque chose, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. C'est qu'il y a au pôle Nord, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un endroit qui est construit, une sorte de forteresse souterraine où sont stockées les semences, les graines en fait.
Oui.
Les graines de très très nombreuses de variétés de plantes qui sont stockées dans un grand entrepôt congelé. Enfin, disons que le climat en fait permet de congeler directement, ils n'ont pas comme ça, c'est assez simple. Et c'est un endroit donc très protégé, inaccessible. Qui en fait c'est une arche, hein, c'est même officiellement, enfin on trouve ce terme arche. Alors je ne me rappelle plus du nom, mais bon, c'est pas difficile à trouver. Hein. Sur internet, il suffit de taper Google, sur Google par exemple, il suffit de taper arche, semence, pôle Nord, ou Arctique plutôt, Arctique. Puis on va vous trouver des informations là-dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est financé par Bill Gates et Monsanto. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont les mêmes qui font des procès à Cocopelli pour empêcher la diffusion de graines non répertoriées, non enregistrées. Et ces mêmes-là, eux, stockent les graines donc non répertoriées dans une arche au pôle Nord. C'est très intéressant.
Mais ils n'ont pas gagné leur procès. Hein.
Oui, alors ils n'ont pas gagné leur procès. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y avait une. Enfin, le procès contre Cocopelli n'a pas été gagné. Et Cocopelli a dénoncé récemment une pétition qui était sur Awaz, qui soi-disant disait que Cocopelli sollicitait l'aide, la protestation à propos de ce problème, alors que ce n'était pas vrai. Et ça, c'est. Enfin, ils ont aussi. Il y a eu le même problème avec Change, l'autre grand site de pétition. Et en fait, Cocopelli a contribué grandement à mettre en lumière le fait qu'il y a un gros problème avec ces deux sites de pétition, Awaz et Change, qui ne sont pas du tout, en fait, au service. Non, il paraît même qu'ils détournent beaucoup de fonds. Enfin, il y a des projets, ils récoltent l'argent et en fait, ça ne va pas du tout là où ils disent que ça va. Et il existe maintenant même des pétitions de Awaz contre Awaz et de Change contre Change. Alors, c'est assez drôle, il y a une pétition de Awaz, ils disent ils espèrent qu'on va atteindre les 10 000 milliards de signataires. Bon, c'est un peu une blague, mais par contre, les arguments sont sérieux. Il y a vraiment un problème avec Awaz et Change et il n'est pas conseillé de les utiliser en fait. C'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça et c'est vraiment quelque chose de confirmé. C'est pas du tout. C'est un peu un écran de fumée en fait, ces sites de pétition.
Avis. Alors je voudrais recentrer un petit peu le débat. On se rappelle qu'on est censé parler des sujets qui concernent PFC. Alors, on le sait que la planète va mal, on le sait que la dette est fictive, on le sait qu'on est empoisonné, on le sait qu'on est mis en esclavage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde qui suggère une libération? Peut-être que ça, c'est important à signaler, parce que tout le monde ne sait pas, parce que ça ne paraît pas dans les médias, ou pas beaucoup. Alors, moi, je signalerais qu'il y a... une percée dans plusieurs domaines. Il y a une percée dans la gouvernance, sachant que les États-Unis ont maîtrisé le monde au niveau de leur monnaie, hein, qui a été déclarée monnaie de réserve, que tous les achats de pétrole qui étaient faits jusqu'à présent se faisaient en dollars, donc pétrodollars, que les États-Unis ont une dette gigantesque, ce qui fait que si leur monnaie devait être évaluée aujourd'hui, elle perdrait 50% de sa valeur, si on se basait sur les actifs, hein, les actifs et non pas la monnaie création sur un compte fictif, sur un compte virtuel. Donc, une percée dans la gouvernance mondiale, c'est les BRICS. Hein. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde... Chine et Afrique du Sud. Mais il y a beaucoup plus que ces 5 pays. Ça, c'est les 5 pays majoritaires, mais il y a environ 80 ou 90 pays aujourd'hui, membres des BRICS. Et Voilà, ça commence à toucher l'Europe. La France et l'Allemagne sont en train d'envisager de participer au BRICS. Ça, c'est une percée dans la gouvernance. Parce que si les transactions ne se font plus en dollars, les transactions importantes dans le monde, ça bouleverse complètement la donne économique. Et c'est le cas, ça commence à être le cas. C'est ça la percée. Parce que il y a certaines transactions ces jours-ci, peut-être la semaine dernière, qui ont commencé à se faire en monnaie chinoise, aux dépens du dollar. C'était le dollar et c'est devenu la monnaie chinoise. Donc, voilà, le jour où il y a une certaine majorité de transactions qui sont faites en monnaie autre que le dollar, on pourra s'attendre à un renversement du rôle de cette monnaie dans le monde qui aujourd'hui est un petit peu souveraine. Hein. Mais il y a eu beaucoup de monnaies de réserve différentes dans le monde au fur et à mesure des temps. À un moment c'était le Portugal, à un autre moment c'était la livre. Donc cette percée-là, elle se fait lentement avec la Chine et la Russie principalement, mais elle se fait sûrement. Ça veut dire qu'il y a des banques qui sont créées, qui ont des fonds pour garantir des prêts réels, des prêts d'investissement dans le monde. Donc ça, c'est une percée qui est super importante pour l'événement, hein, pour le basculement, parce que les États-Unis vont perdre leur rôle de monnaie de réserve. Il y a une percée dans la médecine, parce que il y a des tas d'appareils technologiques à base d'électromagnétisme qui apparaissent en provenance de Russie, qui ont été étudiés et développés sur 20 ans pour certains d'entre eux, et qui ne se basent pas sur la chimie pour guérir. Donc il y a des empreintes électromagnétiques de virus, de microbes, qui sont décelées, mémorisées, répertoriées, et on peut agir contre ces substances et ces organismes-là seulement au moyen d'ondes, au moyen de d'ondes magnétiques, électromagnétiques. Et c'est quelque chose qui est en train de gagner beaucoup de terrain maintenant. Il y a des outils de diagnostic, il y a des outils pour les médecins. C'est quelque chose qui a été testé, hein, qui a été testé pendant des années et des années par les Russes. Voilà, alors il faut bien sûr s'assurer que c'est juste et vrai, mais c'est des appareils qui sont présentés comme des alternatives au système de la chimie qui aujourd'hui n'a certainement pas fait ses preuves pour nous maintenir en bonne santé. Hein, on en parlait tout à l'heure. Alors, dans quel domaine y a-t-il encore une percée, hein? Dans le domaine des énergies. Il y a de plus en plus d'annonces qui sont à vérifier, mais il y a de plus en plus d'annonces, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein. Il y a de plus en plus d'annonces de systèmes qui sont dits libres en termes d'énergie ou même qui sont révolutionnaires. Sans parler d'énergie libre qui parfois pose controverse, je dirais... il y a récemment, ils ont trouvé des panneaux solaires qui étaient transparents, qui pouvaient être produits par des machines sur des dizaines de mètres, qui étaient beaucoup moins chers que les panneaux solaires traditionnels, et qui pouvaient se mettre, par exemple, sur des baies vitrées, hein, comme, ou sur les vitres de votre maison, et qui peuvent fournir... Oui, c'est semi-transparent, mais on peut le mettre sur le toit facilement, sur les vitres. Je dirais que bientôt, ça sera 100% transparent. Ils ont fait la première route en Hollande, sur 600 mètres. Ils ont fait la première route qui produit sa propre électricité pour alimenter des feux de signalisation, pour même... alimenter la ligne jaune qui est au milieu de la route par diode, et donc on peut décider que c'est une ligne pointillée ou c'est une ligne continue ou ça change en fonction des circonstances.
Par frottement ?
Non, la route est recouverte de panneaux solaires qui sont protégés par une couche de verre très résistant. Donc on roule dessus. On roule dessus. Certains trottoirs dans certaines gares produisent leur propre électricité parce que les plaques s'enfoncent de 5 mm dans le sol lorsque les nombreuses allées et venues des gens qui vont prendre leur train passent dessus. Donc la gare produit l'électricité. Bientôt, les trottoirs de nos routes pourront produire de l'électricité parce qu'on dépense de l'énergie pour marcher. Cette énergie peut être reconvertie partiellement en électricité. Tout ça, c'est aujourd'hui pas tellement exploité, mais c'est une réserve. C'est une réserve qui pourra, à terme, supplanter une partie du pétrole, une partie des autres énergies. Donc, j'ai cité trois domaines, mais il y a une révolution qui est silencieuse, qui est en train de se passer. Alors, certains parlent de générateurs autonomes. Il y a des sociétés qui montrent des générateurs qui fonctionnent sans carburant, qui fonctionnent selon les principes de Tesla. Bon, il y a une sorte d'inflation aujourd'hui d'annonces. Bien sûr, nous avons besoin d'avoir des preuves solides, hein, mais il y a une inflation d'annonces concernant une énergie qui n'est pas issu du pétrole et qui est saine pour l'humanité, qui n'est pas source de pollution, etc. Voilà. Au niveau de la justice, on peut regarder tout simplement les procès des banquiers, les procès des institutions qui sont... la justice pénale internationale qui fait quand même quelques progrès. Ça fait déjà 4 domaines sur les 6 principaux que préfigure PFC. PFC se centre sur 6 domaines en ce qui concerne le futur de l'humanité. 6 domaines où il y aura une avancée majeure. Ce sera la finance, ce sera la santé, la gouvernance... la technique, les énergies, l'éducation. Non, je crois que l'éducation n'y est pas. Les arts, voilà, la renaissance des arts. Oui, bon, il en manque toujours un. De toute manière, il en manque un, mais c'est indiqué sur le site Être Plus, hein, les sites où on peut s'attendre à de profonds bouleversements parce que ils ne seront plus manipulés. Ça sera libre. Aujourd'hui, aucun journal comme Le Monde ou Le Figaro ne peut dire voici un moteur à énergie libre, même si c'est éprouvé. C'est censuré automatiquement parce que c'est une question de lobby, hein, lobby d'électricité, lobby de système. Voilà, donc, quels sont les domaines dont vous êtes au courant, dans lesquels il y a des percées majeures? Je dirais que ça, c'est ce qui nous occupe dans PFC, plutôt que de dire ce qui va mal, parce que ça ira forcément... de pire en pire. Et donc, si on passe notre temps à dire ce qui va mal, c'est du temps où on ne dit pas ce qui va bien. Parce que les forces de la résistance s'occupent de commencer à rétablir un certain équilibre, nous tiennent au courant de temps en temps avec des nouvelles, soit codées, soit en clair. Mais à part ça, nous n'avons pas réellement de pouvoir là-dessus. Hein. Sinon, on aurait terminé avec ça depuis longtemps. Sans parler du fait que nous avons été informés que nous sommes au niveau énergétique, psychologique. Nous avons des implants psychologiques qui font que nous sommes plus ou moins endormis et que notre capacité à nous réveiller, à nous révolter, à nous dresser, est limité. Et que ces implants seront désactivés, et puis il y a aussi des procédures personnelles de désactivation qui existent déjà. Mais voilà, notre pouvoir pour le moment, il réside dans l'accélération de nos vibrations, de notre conscience, et on le fait comme on peut parce que avec les implants, c'est pas toujours facile de se dresser dans la conscience. Mais si vous avez des domaines dans lesquels vous sentez que ça bouge beaucoup dans le sens de la libération, voici, c'est ça des nouvelles qui sont propres à nous motiver. Hein, c'est ça des nouvelles qui sont propres à faire grandir ce groupe PFC. Parce que plus il y a de gens qui font les méditations le dimanche dans le monde, hein, et plus cette masse critique, qui est estimée à 144 000 personnes dans le monde, qui feraient les méditations en même temps, plus cette masse critique peut être atteinte rapidement. Voilà, je voulais recentrer le fait que parler de ce qui va mal ne fait pas avancer la conscience sur Terre, alors que parler des percées et donner des idées aussi sur comment les choses pourraient être améliorées, c'est de nature à faire évoluer la conscience, c'est de nature à se dire « ah mais oui ». Voilà, par exemple, tout l'évolution du collaboratif en ce moment. Il y a même un site qui propose aux particuliers de cuisiner chez eux et de mettre des plats à disposition dans le voisinage. Avec, il y a une carte où il y a des petits points qui apparaissent. À 200 mètres de chez moi, à 500 mètres de chez moi, il y a tel plat cuisiné qui a été fait par un de mes voisins et qui est vendu pour pas très cher. Alors, si vous remarquez bien, ça a été fait pour les hôtels avec le Airbnb. Ça concurrence les hôtels, tous les systèmes classiques. Et les hôtels ont attaqué et ont imposé une taxe. Alors maintenant, c'est les restaurants qui sont attaqués. Mais en même temps, je dirais, l'avenir de l'humanité est au collaboratif. S'il y avait du collaboratif aujourd'hui, là où il y a des structures figées, rigides, établies, c'est évident qu'on se parlerait plus, c'est évident que les liens se renforceraient. Et quand les liens se renforcent, c'est impossible d'être manipulé parce qu'on communique immédiatement beaucoup plus. Nous sommes isolés par le manque de communication. Aujourd'hui, je peux louer ma voiture qui dort dans la cour à quelqu'un qui est près de chez moi et qui peut en avoir besoin juste pour 2 jours. Et ça lui évite d'avoir sa propre voiture, d'investir ou d'acheter. Alors, aujourd'hui sur Internet, ça explose littéralement. Hein. Si j'ai une chambre vide, je peux la louer à quelqu'un, un touriste qui est de passage sur Paris. Et c'est une sorte de contagion, c'est positif pour moi. C'est une contagion du collaboratif. Ça, aujourd'hui, si j'ai par exemple mon grille-pain, c'est le troisième que j'achète, parce qu'un grille-pain c'est indémontable, c'est fait pour ne pas être démonté. Mon grille-pain, il y a un café qui a ouvert, peut-être qu'un jour on ira faire la réunion là-bas, tellement c'est intéressant, qui s'appelle la recyclerie, qui est dans le 18e ou dans le 19e, où on peut amener ses appareils cassés, et les grille-pains, les ordinateurs qui démarrent plus. Il y a soit des vieux papis qui ont vraiment envie de se rendre utile bénévolement, qui réparent les choses, il y a des techniciens qui donnent un petit peu de leur temps, et ça c'est bénévole. Et pour moi, c'est enthousiasmant parce que dans les appareils, aujourd'hui, il y a une fonction qui dit ça va s'arrêter au bout de tant de tartines, hein, pour les grille-pains, ou au bout de tant de pages imprimées. Mais ils ont découvert que si on rechargeait le driver de l'imprimante qui contient la date à laquelle l'imprimante a commencé à fonctionner, alors l'imprimante qui ne marchait plus se remet à marcher parce que le compteur d'impression de page est remis à zéro. Donc ça veut dire que... Alors aujourd'hui, il y a un projet de loi même qui a été, qui a été donné à l'Assemblée, proposé à l'Assemblée, contre de pénaliser l'obsolescence programmée. Parce qu'au niveau écologique, ça fait qu'il y a des tas de choses qui sont jetées, qui pourraient fonctionner, mais qui sont jetées à cause du fait qu'elles sont programmées pour s'arrêter de fonctionner. Et donc, au niveau écologique, c'est dramatique, parce que les ressources, etc. Donc, les choses bougent, la conscience humaine commence à changer sur Terre. Moi, je dirais que il y avait une émission dans Arte qui s'appelait Futur, avec un E, qui a parlé du collaboratif, mais aujourd'hui, ça prend une dimension énorme, le collaboratif. Hein. Si vous vous renseignez, en général, les sites commencent par E-quelque chose. Hein, le E-booking, voilà, toutes les choses qui sont faites en... aujourd'hui, on peut aller en Suède... travailler une semaine dans une ferme en échange des repas et puis après on peut aller au Danemark et puis tout ça sans débourser un seul centime. On échange notre force de travail contre des repas ou du tourisme même dans des pays qu'on a envie de connaître. Ça s'appelle le woofing, je crois. Donc c'est extraordinaire parce que qu'est-ce qui se passe? Au lieu que nos structures soient pyramidales, comme elles le sont aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est les institutions d'État, les chambres de commerce, voilà, tout ça, c'est bien aligné les uns en dessous des autres. Ensuite, c'est les sociétés publiques, c'est les sociétés privées, et en bout de chaîne, il y a ben, nous. Nous qui dépendons de la pyramide, eh ben, au lieu que ça soit vertical... Le e-booking et tout ce qui est collaboratif, c'est horizontal. Ça veut dire que moi, citoyen, je m'adresse à toi, citoyenne, pour te proposer quelque chose sans passer par ni l'État, ni une société. Alors, bien sûr, il y a des levées de boucliers parce que ça se passe pour les taxis. Les taxis sont mis en danger par le fait que moi, je loue ma voiture 2 jours ou même je propose du covoiturage. Je conduis quelqu'un de Romainville à Gare du Nord et en échange d'un peu d'argent. Les taxis, bien sûr, n'aiment pas ça. Les hôtels n'aiment pas que je propose ma chambre. Les systèmes de location, Hertz et tout ça, n'aiment pas que je loue ma voiture. Alors, il y a besoin d'une transition en douceur pour que les intérêts, quand même, ça se fasse dans le respect de chacun. Mais je dirais le collaboratif. C'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir de l'humain, si ça se fait avec une transition intelligente. Parce que du jour au lendemain, c'est difficile à ce que ça ne menace pas d'autres secteurs de l'économie. Alors ils ont fait dans ce sens-là, ils ont fait une taxe sur les particuliers qui louent leur chambre aux touristes, hein, ou des lois spéciales qui disent... je dois louer pas plus que 2 mois par an, sinon je deviens une sorte de professionnel. Bon, bref. Mais le fait que le collaboratif fleurisse un peu partout, et en Allemagne c'est vraiment énorme, un peu moins en France, c'est signe que l'Internet a, d'une certaine manière, incité les gens à reprendre leur pouvoir, à se dire... Moi, je peux communiquer avec toi directement. Je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire. Je n'ai pas besoin de dire « Papa, est-ce que tu me donnes la permission de vendre ma recette de cuisine que j'ai faite à mon voisin ?» c'est débile. Est-ce que j'ai besoin de la permission d'une instance pour proposer un service créatif à mes voisins, mes voisines ? Donc, le collaboratif, c'est énorme. Pour moi, c'est une percée extraordinaire. Et l'Internet est vraiment utilisé avec intelligence, hein, je dirais, dans ce domaine-là. Il y a des choses très, très négatives qui sont faites avec l'Internet, mais ce n'est qu'un vecteur, qu'un outil... On parle aussi des monnaies locales. Les monnaies locales, c'est le bitcoin ou même les systèmes d'échange locaux. C'est, ça chante les banques centrales, ça chante les banques traditionnelles. Et il s'avère qu'au niveau des économies locales, c'est un extraordinaire pouvoir de développement parce que il y a des monnaies fondantes. Par exemple, j'ai 100 monnaies locales de Romainville, j'ai 100 unités de cette monnaie. Si je ne les utilise pas dans les 3 mois, ça va devenir 90. C'est fondant. Ça veut dire que je ne peux pas stocker, je ne peux pas faire l'avare, je ne peux pas mettre ça au coffre. Ça circule. Hein, et si je ne fais pas circuler, je suis d'une certaine manière pénalisé. Mais je ne peux l'employer qu'à Romainville ou peut-être 2-3 communes autour, ce qui fait qu'au lieu d'aller acheter un truc loin de chez moi et consommer du carburant, eh bien, je vais faire marcher le cordonnier de Romainville, le boulanger de Romainville, et bien sûr qu'ils sont contents. Donc, ils acceptent ces monnaies locales parce qu'ils y gagnent, puisque l'économie locale, qui est très écologique, ben, se remet à bien fonctionner. Donc, mon marché local va les accepter, tous les commerçants. Il y a des villes où même les banques acceptent les monnaies locales. Même les banques, je peux aller. Par exemple, les supermarchés. Les banques, ce n'est pas un très bon exemple. Mais les supermarchés, une supérette dans laquelle je peux faire mes courses traditionnelles va accepter la monnaie locale. Hein, c'est affiché sur la vitrine. Ça veut dire que c'est officiel, c'est légal, ça a une valeur reconnue, etc. Donc, il y a des villes et il y a des endroits du monde qui ont subi des vraies révolutions au niveau de la prospérité locale, juste à cause grâce à une monnaie locale, hein, grâce à quelque chose qui a encouragé l'économie solidaire et l'économie locale. Donc, voilà des bonnes nouvelles. Hein. Et puis, il y a sur Internet une télé qui ne donne que des bonnes nouvelles, et qui est parrainée par Anne Givaudan.
Ah oui.
Donc, elle ne donne que des bonnes nouvelles. Ça change du journal de l'émotionnel, hein, qui est souvent à 20h. Le journal, plus il y a d'émotionnel dans l'humanité, et plus les forces mal intentionnés se nourrissent de la peur, de l'émotionnel que ça génère.
L'émotionnel en soi n'est pas un problème. L'émotionnel, c'est juste que là, il est utilisé comme moyen pour court-circuiter le raisonnement et faire passer un message par un message émotionnel plutôt que par un message argumenté et en fait faire passer une réalité décalée par un argument émotionnel. Mais en soi, l'émotionnel n'a rien de négatif. Au contraire, je pense que les émotions, c'est quand même assez important. Mais sauf que là, c'est mal utilisé. Et alors, je voulais compléter un peu ce que tu disais par rapport à l'évolution du monde. Il y a quelque chose de fondamental à notre époque, c'est l'évolution technologique. Et c'est vrai que la technologie, c'est quelque chose qui amplifie les défauts et les qualités. Donc tu as parlé. Donc qu'est-ce qui fait que c'est un défaut et une qualité ? Ben, ça dépend en fait comment on utilise la technologie. Mais parce que souvent on pose le problème de est-ce que c'est bien la technologie ? Est-ce qu'on va pas trop loin ? Est-ce que ça va pas être un problème ? Il y a les transhumanistes et tout ça. Mais ça, c'est le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la technologie qui décide de ce qu'on va faire de la technologie. Mais la technologie, comme elle amplifie les défauts et les qualités, quelque part, dans un monde qui serait bien géré, on a plutôt intérêt à avoir de la technologie parce qu'il sera d'autant plus amplifié du bon côté. Et alors, du coup, ça a aussi un effet de révélation parce qu'en amplifiant, ça révèle. C'est-à-dire que les problèmes, ils sont plus visibles. Par exemple, les problèmes, parce que là aujourd'hui on est plutôt dans une société qui est plus problématique en fait. Donc c'est peut-être lié à la notion d'apocalypse qui est donc le fait de lever le voile Et ça, c'est lié aussi peut-être à la technologie, parce que il se trouve qu'on est dans une période de forte croissance technologique, et ça, ça dévoile les choses, parce que ça amplifie tellement toutes sortes de choses, toutes sortes de phénomènes, qu'ils deviennent, avant, ils étaient quasiment imperceptibles, et maintenant, ils deviennent vraiment patents. Comme la manipulation de l'information. Alors ça, c'est très lié à Internet. C'est vrai qu'Internet est peut-être la chose qui permet le mieux de voir la manipulation et de s'informer, sachant que l'information, c'est vraiment quelque chose de central dans l'évolution, enfin j'imagine, hein. Au moins d'un point de vue un peu pragmatique, pas spirituel, mais plus pragmatique, l'information, c'est vraiment fondamental. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué. Enfin voilà, je voulais attirer l'attention sur le fait que sur Internet, alors c'est bien, il y a beaucoup d'alternatives, mais souvent on retrouve le même problème qu'en dehors. C'est-à-dire que les médias, bon, d'un côté on a tendance à voir les médias qui font de la propagande en gros, hein, et sur Internet on trouve toutes sortes de choses, mais on trouve aussi des choses complètement stupides. Mais comme c'est ce qu'on. Comme c'est censé être de l'information alternative, les gens, ils y croient. Ils se disent, ah, la télé, c'est le diable, Internet, c'est... Là, ils disent le contraire, enfin, ils parlent de choses, Internet, ils n'en parlent pas, donc ça, c'est bien, mais souvent, c'est aussi bête, j'ai remarqué. Donc, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça appelle aussi à un processus un peu d'auto, il faut s'auto, il faut entraîner le discernement. Alors, il y avait un truc... Il y a un peu un cas d'école, et je veux dire, c'est assez intéressant, parce que il n'y a pas longtemps, il y avait l'histoire de l'effet Dumas, et l'effet Dumas, bon, visiblement, c'est vraiment une grosse imposture. Hein. Et c'est fascinant, parce que... et ce qui est fascinant, c'est tout le remue-ménage qui a été fait, et qui continue même de croître encore. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que, sous prétexte de mots-clés énergie libre et partage, on va utiliser deux mots-clés, et après, à côté de ça, on va rien, visiblement, il n'y a rien, hein, il n'y a jamais eu aucune confirmation, alors que c'est un truc vraiment super simple. Et visiblement, ça suffit à susciter un engouement qui part, qui s'auto-alimente, et, alors que derrière, c'est rien, quoi, c'est le vide. Et ça, c'est le genre de truc, avant Internet, bon, c'était peut-être plus dur de voir ce genre de choses. Et d'un point de vue socio-psychologique, c'est super intéressant. Et je pense que c'est assez révélateur de comment fonctionne un peu le... Comment ça fonctionne, quoi. Donc il faut voir le bon côté aussi de ça. C'est que moi j'avoue, je suis surpris, voilà. Je pensais pas que ça... Voilà, je constate, hein, c'est intéressant, quoi.
Ça marche pas, là ?
Non, alors, l'effet Dumas, il n'y a jamais eu de retour positif. Hein, tout ce que j'ai vu comme retour, c'est des personnes qui ont fait des expériences qui n'ont pas réussi à reproduire et qui critiquent donc le truc. Mais jamais vu de... C'est pas un brevet. Non, mais si tu veux, Claire, en fait, ce qui fait que cette affaire, elle a marché, enfin, affaire, comment dire, ce qui a suscité un engouement, c'est l'argument, c'est du partage, c'est du don. Sauf qu'en fait, il n'y a rien derrière. Mais c'est juste l'argument du fait que, soi-disant, il partage quelque chose qui suffit en soi à susciter un engouement alors qu'il n'y a rien. C'est très drôle. C'est très drôle.
Ça aurait été médiatisé s'il n'y a rien. Ça ne fabrique pas d'électricité, le système.
Visiblement, ça ne fabrique rien. Non, il n'y a pas de résultat. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé de... il n'y a jamais rien de clair qui a apparu. Alors, dans le domaine, je dis bien de l'énergie libre, sachant que dans le domaine de l'énergie, de manière générale, il y a plein de solutions alternatives qui sont tout à fait réalistes et extrêmement... c'est juste une question de volonté politique. Hein. On pourrait très bien vivre dans un monde avec l'énergie renouvelable, même sans faire d'économie d'énergie. Et ça, personne ne le dit, mais bon, moi, je le dis et je le répète. Mais en ce qui concerne l'énergie libre, là, de ce côté-là, il y a un sérieux... Je pense qu'il y a vraiment aussi un phénomène un peu de... un peu de... il y a un culte, quoi. Il y a un culte qui s'est créé autour de ça, et je ne sais pas trop d'où ça vient. C'est, bon, l'effet Dumas était très illustratif d'un point de vue de comment ça peut rapidement un mythe peut se construire. Après Tesla, moi, je n'ai toujours pas la preuve que. Je sais qu'il y a des gens très ouverts hein, qui disent aussi qu'ils ne sont pas du tout convaincus que. Alors Tesla, c'est aussi, il faut se faire attention parce que souvent le mot-clé aussi, c'est un nom, on brandit ce nom, et le mec, il est mort. C'est comme Ben Laden, on lui imputait les attentats, mais il était mort. Hein? Et moi, ça me rappelle un peu ça. On utilise un personnage qui est mort pour soi-disant lui faire porter soit le fardeau, soit le l'originalité d'une avancée. Mais voilà. Mais c'est peut-être que j'ai des conneries. Peut-être que Tesla il a effectivement fait quelque chose. Hein, j'en sais rien. Je suis ouvert à tout, voilà. Mais j'invite les gens juste à réfléchir et les mettre en garde parce que c'est incroyable. Enfin, voilà. Il faut vraiment toujours. Le monde est tellement complexe et c'est ce qui fait sa richesse aussi. Mais il faut pas rentrer dans des cadres comme ça et se dire un tel il est gentil, un tel il est méchant. Ça y est, j'ai tout compris. C'est rarement aussi simple. Et ça demande vraiment un vrai travail sur soi de développer le discernement. Donc, en ce qui concerne l'énergie libre en particulier, là, vraiment, c'est un truc... c'est vraiment très compliqué. Bon. Mais ça n'empêche pas, ça enlève rien au fait que les solutions, elles existent, hein, pour ce qui est de l'énergie. Si quelqu'un voudrait que tu voulais...
Non, je voulais juste te demander pourquoi tu n'as pas contacté, puisque tu es ingénieur, tu as un haut niveau de technique, pourquoi tu n'as pas contacté Fabrice... C'est Fabrice Landré, c'est ça ? Le gars de la, qui est un chercheur scientifique et qui travaille à 2000 mètres d'altitude et qui utilise pas mal d'énergie et qui a créé un générateur d'énergie quantique avec succès, mais partiellement, c'est-à-dire partiellement, c'est une partie de ce qu'il utilise. Il utilise aussi autre chose, l'éolien, enfin plusieurs choses, hein, le solaire, tout ça. Pourquoi toi, tu ne l'as pas contacté au lieu d'aller lire sur Internet les ragots, les trucs, les articles contre lui? Pourquoi tu ne l'as pas contacté?
Alors déjà, il est difficile à contacter. Non, j'ai pas essayé, mais non, mais ça, c'est un peu facile de dire, genre, t'as essayé de contacter un tel, mais tu sais, il y a peut-être 150 000 personnes que je pourrais essayer de contacter.
Mais lui,
si tu veux, ça fait des années quoi que j'ai pas attendu Cathy pour m'intéresser à Fabrice André. Hein. Ça fait des années que je suis ce qu'il fait et après ce que j'ai pu en comprendre et ça a l'air assez clair, c'est du bidon. Voilà. Mais toi, ça te fait pouffer, mais voilà, moi ça. C'est les personnes. De toute façon, je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont allés là-bas, ça fait des années qu'ils y vont, et ils y sont encore allés cette année. Pourquoi il n'y a personne qui s'exprime positivement sur les formations sujet? Je veux dire, c'est pas compliqué, les personnes qui sont allées en stage, si elles ont des choses positives à dire, elles vont le dire. Si personne ne le dit, si les seuls qui disent des choses, c'est pour finalement dire qu'ils sont bien fait avoir et que c'était pas du tout intéressant, je vois pas pourquoi il faut toujours couper les cheveux en quatre et se dire il y a une conspiration, c'est les forums qui sont censurés. Non mais il faut arrêter quoi, il faut Claire intéresse-toi, je sais pas, fais des démarches, je sais pas, regarde, ne serait-ce que regarder ce qu'il dit sur les forums.
Bah non, justement, c'est pas ça que je ferais, moi.
Bah oui, mais non, mais d'accord, mais pour aller voir il faut, c'est pas donné, hein, pour aller voir. Et puis moi j'ai zéro centime, voilà.
Alors, on va pas entrer dans la polémique. D'accord. Alors moi, j'ai juste avant de conclure, avant de terminer, une information à propos de ce qu'on disait tout à l'heure sur les émotions. Hein. Je parle surtout des émotions liées à la peur. Quand vous regardez le journal de 20h, les bonnes nouvelles sont rares, mais par contre, les assassinats, les guerres, voilà, tout ce qui suscite une émotivité. Et l'émotivité, ce n'est pas l'émotion, parce qu'il peut y avoir des émotions positives. Alors, dans la spiritualité, je pense, pour moi, c'est quelque chose à laquelle je crois. Les êtres de lumière se nourrissent de lumière et grandissent avec ça. Et les êtres d'obscurité se nourrissent de peur, se nourrissent d'émotions négatives et grandissent avec ça. Il y a autour de la Terre, suite à la quarantaine de la Terre, des entités dont la nourriture, c'est l'émotion collective de l'humanité. Ce n'est pas d'une personne en particulier. Donc leur intérêt, c'est de maintenir l'humanité dans un état de peur. Et en contrepartie, ces émotions les nourrissent. Parce qu'une peur est une énergie. Une angoisse est une énergie qui nourrit leur système, on appelle, il y a deux catégories d'êtres dans l'univers, les êtres qui sont au service des autres et les êtres qui sont au service d'eux-mêmes. Et les êtres qui sont au service d'eux-mêmes se nourrissent des émotions parce que l'amour n'est pas dans leur mode de fonctionnement. L'amour ne les nourrit pas. Si vous envoyez de l'amour à quelqu'un qui n'en veut pas, il va devenir encore plus agressif. Donc l'amour ne les nourrit pas. Et inversement, si vous envoyez de l'obscurité à quelqu'un qui est lumineux, ça ne nourrit pas non plus. Donc pour moi c'est assez logique. Mais ça se passe au niveau plus éthérique. Les entités se nourrissent, les entités qui sont pas au service des autres, se nourrissent des émotions négatives de l'humanité et ont intérêt à maintenir l'humanité dans un ensemble d'émotions négatives. Il n'y a qu'à voir le ton d'une conversation, quand on parle de peur et le ton d'une conversation qui est positive et constructive, c'est deux choses diamétralement opposées au niveau de l'effet sur nos vibrations. Voilà, c'est quelque chose d'encore important à dire avant qu'on termine. C'est à peu près l'heure de terminer. Bien, chers amis de PFC, j'espère que cette réunion fut instructive pour vous. Je te dis à la semaine prochaine et bonne semaine à toi.